la nuit.
Réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Le stéthoscope
de Fabien et Carole. Radio Lac.
On parle d'emoji ce matin dans l'étude du jour, le stéthoscope qui s'intéresse à cette étude américaine qui nous dévoile quel est cet emoji qui est beaucoup trop utilisé au quotidien. On l'utilise toutes et tous, cet emoji, à tel point qu'il a complètement perdu, qu'il a grandement perdu de sa signification première et de son intérêt, de sa splendeur. Quel est cet emoji selon toi, Carole ?
Ce ne serait pas l'emoji qui rit ?
Non.
L'emoji qui pleure.
Non plus.
L'emoji bisou.
On s'en approche.
L'emoji genre je suis trop flattée. Non.
L'emoji cœur tout simplement.
Ah, l'emoji cœur.
Mais oui, l'emoji cœur.
Ah, moi je vois toujours un petit bonhomme avant le cœur là, tu vois. Pour moi l'emoji ouais.
Le petit sourire, le petit smiley. On parle de cet emoji cœur qui est celui qui est le
plus utilisé.
Et on l'utilise à toutes les sauces.
Ouais.
Mais pourquoi ? Parce que maintenant, le cœur, c'est synonyme de j'aime. Des publications sur Instagram, sur Facebook. Tu peux mettre un j'aime sur WhatsApp. Tu peux mettre un cœur aussi dans les e-messages, par exemple, sur l'iPhone. Bref, ce cœur a complètement perdu sa signification première qui était de symboliser l'amour.
Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi plusieurs couleurs de cœur.
Exactement.
Parce que pour moi, l'amour, c'est le cœur rouge.
Oui.
Alors, si tu vas mettre un cœur blanc, moi, souvent, j'utilise le cœur blanc.
Ah ouais, ok.
Ouais.
Ça veut dire quoi pour toi, le cœur blanc ?
Le cœur blanc, c'est la pureté. C'est quelque chose que t'aimes bien, mais sans pour autant en faire trop, quoi.
Ce symbole du cœur rouge est devenu en tous les cas l'un des plus populaires au monde, mais son omniprésence en fait a complètement dilué le sens de l'amour finalement, jusqu'à l'effacer complètement. C'est le résultat de cette étude qui explique que l'emoji cœur finalement pour la plupart des gens n'a pas vraiment une signification d'amour, c'est juste pour expliquer son adhésion à quelque chose. Tu dis quelque chose qui me plaît, hop je mets un cœur. Voilà.
Ouais.
Tu vois une photo qui te plaît sur Instagram ou sur cœur. Facebook, hop, tu mets un petit cœur. Avant, il y avait que le pouce. Maintenant, il y a le cœur. Et c'est vrai que le cœur a pris toute la place. Et c'est donc l'emoji qui est complètement, assez éloigné finalement.
Il est beaucoup trop exploité.
Trop exploité et trop éloigné de sa signification première. Voilà, selon cette étude qui a été publiée dans le magazine Wired Monde en 2024. Il y a donc quelques mois. C'était en fin d'année dernière. Quel est l'emoji que vous utilisez le plus ? Hein ?
Moi, ce serait l'emoji qui pleure.
Ah ouais.
Parce que je peux l'utiliser aussi dans des situations où quelque chose me fait rire, j'en pleure de rire.
Ah
tu
oui,
vois.
Ok.
Donc je le mets souvent.
Tu le mets
à toutes les sauces.
Pas mal. Moi, je crois que l'emoji rire, je le mets à toutes les sauces. C'est aussi un bon moyen de terminer une discussion. C'est-à-dire, quelqu'un te dit quelque chose, t'as pas envie de surenchérir, hop, tu mets un emoji.
Ouais.
Comme ça, t'es tranquille.
Très bien.
Eh bien, dites-nous.
C'est pour ça que la dernière fois que je t'ai écrit, en fait, tu m'as juste mis un emoji.
Exactement. Non, voilà.
T'avais pas le temps, quoi.
Hein. Bah, c'est ça. Et pas envie, surtout.
C'est bien avoué, quoi.
Envoyez-nous vos emojis préférés. WhatsApp, ça s'y prête parfaitement. 079 98 3000.
Et pas d'aubergine, hein.
Ah non.
Trop tôt, hein.
Ouais, on est d'accord. Encore que.
Oh,
c'est vendredi.
Pas. Allez,
on a une petite pêche
pour les fesses. Allez, c'est parti.
Ou les cerises.
Ouais, les cerises.
Les petites cerises.
Le meilleur de Lac, en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
just fade away.
Radio-Lac, Eric Ashkar ramène sa science dont il suffit de demander.
Il suffit de demander.
Bonjour Eric Ashkar.
Bonjour Sophie.
Attention, vous avez laissé plein d'ADN sur votre chaise là.
Ah bah oui.
Ah bah oui, c'est normal.
Il y en a beaucoup.
Bah oui, on est tous pareils. Alors l'ADN, c'est incroyable. Alors, l'ADN, il faut quand même le dire, on en parle beaucoup dans les séries policières. C'est comme ça qu'on s'intéresse à l'ADN, voilà. Mais on va revenir aux sources de l'ADN. Et qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, l'ADN, on connaît les trois lettres, ADN.
Ouais.
ADN, ça veut dire tout simplement acide désoxyribonucléique. C'est un terme très savant.
Oui.
Y a aussi l'ARN, c'est l'acide ribonucléique. Mais là, on va parler de l'ADN.
Oui.
Alors, l'ADN, c'est en fait la molécule qui va contenir l'information génétique d'une cellule, qui se trouve dans le noyau de la cellule. Et l'ADN, en fait, quand on voit à l'école, en cours de biologie, on voit cette double hélice tournée.
Ah oui.
Il y a deux barreaux. Donc, au lieu d'avoir l'hélice, imaginons qu'on la mette à plat, cette double hélice, c'est-à-dire qu'on enlève son côté spatial, on la mette à plat, comme une échelle, avec deux barreaux. Donc, on a un barreau à droite, un barreau à gauche, et au milieu, on a les marches d'escalier, c'est-à-dire qui sont horizontales. Donc, les barreaux sont verticaux, et les marches d'escalier sont horizontales. Et là, on va aller dans le détail. Donc, chaque branche va être constituée de nucléotides. Chaque nucléotide, dans sa composition, on va avoir des bases et on aura quatre bases. Et ça, on le voit à l'école, on le voit, c'est A, C, T et G. A pour adénine, T pour thymine, C pour cytosine et G pour guanine. Donc, quand on voit des dessins de l'ADN, on va voir cette échelle. Et sur chaque barre horizontale, on va avoir un A qui embrasse un T, on va avoir un G qui embrasse un C. Donc en fait, dans l'ADN, seul le A peut se marier avec le T, donc la base A se marie avec la base T, la base C, la cytosine, se marie avec la base G, la guanine. Donc ça veut dire en gros que quand on a un demi-ADN, donc seulement un côté, une barre verticale, on peut par déduction déduire l'autre côté. Et c'est comme ça que se répliquent les cellules, c'est-à-dire que l'ADN va s'ouvrir, les deux barreaux vont s'ouvrir, et par en fait les bases qui vont être présentes vont se mettre en face. Si on ouvre l'ADN d'un côté, on va avoir un A, de l'autre côté, très loin, on va avoir un T. Et bien, on va mettre en face du A qui se trouve tout seul un T, et de l'autre côté, sur l'autre barreau qui se trouve tout seul, on va lui mettre en face un A. Et donc, c'est ce qui va permettre de répliquer l'ADN. Donc, c'est la succession des lettres A, T, G, C qui va permettre de coder le gène.
Comment ça a été découvert cet ADN, l'ADN ?
Alors, la structure de l'ADN a été découverte en 1953 par deux scientifiques en Grande-Bretagne, Watson et Crick, qui originellement ne travaillaient pas sur l'ADN, mais se sont intéressés au sujet et ont pu expliquer la structure juste par des radios de cristallographie rayon X de la molécule d'ADN qui leur ont permis d'établir le modèle de l'ADN, donc cette double hélice qu'on ne connaissait pas. Et puis ensuite, les découvertes qui en sont suivies, on a pu mieux expliquer le génome, sa réplication. Mais là, ça a été, je dirais, le point de bascule parce qu'on avait la structure spatiale de la molécule d'ADN qui était formulé à ce moment-là en 1953.
Et puis ça a été formidable déjà pour la police scientifique, hein, pour confondre des meurtriers, ce qui a été le cas d'ailleurs dans une première affaire dans les années 80, je crois, en Angleterre, et puis aussi en France. Hein, c'est l'ADN qui a permis de confondre le tueur de l'Est parisien Guy Georges. Hein, voilà, c'était vraiment tout début des années 90, et puis bien sûr pour la recherche de paternité aussi. Enfin voilà, exactement. Et bien merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'ADN. Eric Ashkar, vous êtes à retrouver en podcast sur radiolac.ch. Et également l'application. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Sophie.
Le meilleur de Lac en replay
sur radiolac.ch.
Look, I just said I'm alright.
Flashback du jour, on va replonger dans une série, un dessin animé qui nous a franchement joué il y a 40 ans maintenant, c'est ça?
Oui, c'est ça, il fête ses 40 ans aujourd'hui et je l'adore, un détective privé, si je te dis détective privé, baston, et puis humour douteux aussi, ouais. Tu me dis?
Un petit peu dragueur, Nicky Larson, bien sûr.
Eh oui.
Générique.
Il a 40 ans aujourd'hui, Nicky Larson, et pourtant, s'il fallait tomber amoureuse de lui aujourd'hui, je dirais certainement non. Autant parce que c'est un mufle, hein, ouais. C'est un dragueur, c'est tout ce que je déteste, mais pourtant à l'époque, oui, il me faisait rêver. Nicky Larson, ce héros culte qui a marqué toute une génération. D'ailleurs, c'est l'adaptation française du manga City Hunter, okay. qui a débarqué au début des années 90 dans le club Dorothée, forcément, et qui est devenu un phénomène. L'histoire, elle est simple. Nicky Larson, un détective privé à Tokyo, il est charismatique, il est grand, il est incroyable, il est dingue, il est surentraîné, mais il est aussi un tireur d'élite redoutable. Sa mission, protéger ses clients, souvent ses clientes, hein, ouais, en détresse.
C'est vrai.
Mais attention, si son professionnalisme est irréprochable, son penchant pour la gente féminine est, disons, un petit peu incontrôlable. Et heureusement, sa partenaire, Laura, est là pour le remettre à sa place avec son fidèle maillet géant.
C'est
là
c'est
qu'elle arrive et elle l'assomme. Ouais. Voilà. Alors, ce qui était dingue dans cette série et sa force surtout, c'était ce parfait mélange entre scènes d'action ultra stylées et les gags complètement absurdes, sans oublier cette touche de romance qui frustre un petit peu parce qu'on voulait les voir ensemble, Nicky Larson
et Nicky, bien sûr.
Et Laura. Et pourtant non, à chaque fois c'était un coureur de jupons, c'est malheureusement.
Et elle devait subir un petit peu tout ça finalement.
Exactement.
Elle assistait à tout ça.
Les dialogues ont été réécrits avec un ton beaucoup plus humoristique hein, en France. Faut savoir que le Nicky Larson version française et le Nicky Larson au Japon, totalement différent. On n'avait pas du tout le même humour un peu douteux. En tout cas au Japon, du coup, bah forcément, c'est un peu plus drôle, un peu plus décalé qu'au Japon. Et concernant le générique qu'on a déjà entendu, c'est Jean-Paul Césari, pardon, qui l'a chanté à l'époque et qui faisait partie de toute la troupe du Club Dorothée.
Surtout si la fille est mignonne, Nicky Larson ne craint personne.
Tous les week-ends,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Bonjour Marc-Antoine Bossart.
Bonjour Sophie.
Le vétérinaire du Suffit de demander que vous retrouvez au cabinet Centre Vétérinaire des Sources à Genève. Alors on va parler de la voix. Nos animaux domestiques connaissent-ils notre voix? les chats, les chiens, les perroquets.
Mais absolument, absolument.
Les lapins. Donc,
les chats, les chiens, oui, plein d'autres animaux, les lapins, le cochon d'Inde, entendent notre voix et reconnaissent des inflexions de voix, surtout les chats, des inflexions de voix, des timbres de voix. Et donc, ils arrivent à reconnaître effectivement leur familier. Ouais. Pour ce qui est des chiens, il y a eu passablement d'examens, d'études qui ont été faites. Et donc, le chien, oui, il arrive à mémoriser entre 100 et, pour les plus futés, 300 mots
ah ouais, quand même.
De notre vocabulaire, ouais. ce qui est largement impressionnant. Et donc, si vous voulez, il apprend d'abord dans des expériences positives, hein, lorsqu'on le caresse, lorsqu'on lui donne à manger, lorsqu'on joue avec lui. Et petit à petit, dans sa croissance, le chien associe en tout cas des situations avec des mots ou des mots avec des situations. Et c'est comme ça qu'il apprend. Après, donc, on a réussi à tester, par exemple, sur des border collies qui arrivent à aller sur commande chercher un jouet dans la pièce d'à côté. Voilà, il va me chercher le crocodile. Alors, il ramène la peluche crocodile, l'éléphant. Il ramène la peluche éléphant, et ainsi de suite.
Moi, ça me surprend moins sur les chiens, mais sur les chats, il paraît qu'ils reconnaissent notre voix et qu'ils nous entendent aussi si on arrive, par exemple, si on arrive en bas de l'immeuble, si on habite en copropriété, il sait que c'est nous.
Voilà, ouais, ils arrivent vrai. Même à apprendre le bruit du véhicule, la moto, la voiture, ça c'est sûr. Ouais. Et puis par rapport à des situations, oui aussi les odeurs évidemment. Mais oui, l'animal a des facultés vraiment quasiment incroyable pour retrouver son maître à la voix ou par rapport à l'environnement. Il y a, comme vous savez, des animaux aussi qui parlent, hein, les perroquets,
bien
les
sûr.
Ménates.
Ils reproduisent, les perroquets, les ménates, ils entendent ce qu'ils entendent à la maison. Ils reproduisent beaucoup.
Ils reproduisent beaucoup. L'éléphant comprend aussi. On donne des ordres.
On a moins souvent un
éléphant.
On a moins souvent un éléphant en compagnie.
Les dauphins, par exemple.
Une
grande intelligence.
Non, c'est intéressant.
C'est vraiment intéressant, voire même troublant.
Troublant, absolument. Ouais. Mais si on leur fait, oh le petit chien à sa maman, il comprend. Quand tu te dis, oh qu'il est beau, c'est qui le bébé d'amour à sa maman? Parce que moi, je parle à mon chat toute la journée. Hein.
C'est-à-dire que l'animal, il a cette capacité.
Il te dit, mais c'est que cette débile.
En quelque sorte, de vous scanner, Sophie, et de percevoir quels sont, qu'est-ce qui s'échappe de votre poitrine.
Ouais.
Donc ça veut dire, si vous êtes heureuse, si vous êtes contrariée, si vous êtes triste, si vous êtes joyeuse, ça, il le sent tout de suite.
D'accord. Ouais. Moi, je suis folle de mon chat.
Voilà.
Et donc, tu dois dire, elle est vraiment folle, mon humaine.
Voilà. Alors, quand vous avez une autre expression corporelle, là, ça le trouble.
Exactement. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Nous
vous
êtes retrouvés en podcast sur radiolac.ch. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
Home and freedom, call my name, but I'm too busy stoned. Lost and lonely, faded homie, hate me as I go. But I ain't feeling nothing real, and I ain't coming home. A paper freedom, feed my ego, guess I sold my soul for a song. I guess I sold my soul for a song. I guess I sold my soul, singing home and freedom, call my name, but I ain't listening, no. Loud and heavy, never steady, hate me as I go. Home and freedom, call my name, but I'm too busy stoned. Lost and lonely, faded homie, hate me as I go. But I ain't feeling nothing real, and I ain't coming home. A paper freedom, feed my ego, guess I sold my soul for a song. sold my soul for a song. I guess I sold my soul. This ain't my chain. Why do I feel them so? If this ain't my prison.
Sur Radio Lac, retrouvez-moi sur Maman Pourquoi, le podcast éducatif et rigolo qui répond à tous les pourquoi.
Pourquoi ?
Et les comment de nos petits curieux.
Comment ?
Maman Pourquoi, c'est tous les mercredis sur vos plateformes préférées, sur le site et l'application Radio Lac.
Was insane. So
Le stéthoscope de Fabien et Carole.
Le stéthoscope du jour, l'étude qui nous vient des États-Unis, une étude qui a été menée à très très large échelle puisque ces scientifiques ont interrogé près de 100 000 personnes.
Ah oui, quand même.
Si voilà, c'est vraiment une très très grosse étude avec une question: quelle est l'heure, la meilleure heure pour se coucher le soir? Alors je te pose la question. Bon, nous on n'est pas forcément de très bons exemples. Pourquoi? Parce qu'on se lève très tôt le matin.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc forcément, on a tendance à décaler un petit peu. Mais moi, j'ai toujours entendu dire, et je suis sûre que je suis dans le juste, que les heures avant minuit comptaient énormément. Donc, elles étaient beaucoup plus réparatrices. Alors, je ne sais pas pourquoi, etc. Mais on m'a toujours dit, couche-toi bien avant minuit, si tu veux être en tout cas en forme. Je vais donner l'heure à laquelle je me couche, 22h.
Ouais.
22h, 22h15.
T'es dans le juste. Carole, déjà le premier élément, se coucher avant minuit. Ouais. Effectivement, c'est plutôt une bonne chose, mais je vais détailler tout ça dans quelques instants. L'heure idéale, selon ces scientifiques, l'heure idéale pour se coucher et pour être en bonne santé, parce que le sommeil influe évidemment sur son dynamisme, sa vivacité, sur sa faculté à pouvoir se concentrer, à travailler, à être productif, mais aussi sur la santé cardiovasculaire. Et c'est justement sur ce point que l'heure d'endormissement finalement est importante. Il faudrait se coucher entre 22h et 23h pour limiter les risques de maladies cardiovasculaires. Et même au-delà, si on se couche entre 22h et 23h, finalement on prend soin de sa santé cardiovasculaire. Voilà.
Incroyable,
donc t'es pile dedans. 22h, 22h15, t'es dedans.
On va être bien, on va vieillir très longtemps, Fabien.
C'est ça. Tu parlais de se coucher avant minuit. Ça aussi, c'est une bonne chose puisque si vous vous couchez avant minuit. Donc on a vu entre 22h et 23h, c'est très bien.
Ouais.
Entre 23h et minuit, c'est un peu moins bien,
ouais,
mais c'est bien quand même. En revanche, si vous vous couchez après minuit ou avant 22h, et c'est là que cette étude est surprenante, se coucher trop tôt aurait les mêmes effets que se coucher trop tard, selon ces scientifiques, et il y aurait un risque de maladie, ou en tous les cas de santé cardiovasculaire un peu péjorée, finalement, si vous avez l'habitude de vous coucher systématiquement après minuit, ou systématiquement avant 22h.
Mais tu vois, c'est très bien que tu me dises ça, parce que souvent, j'ai envie d'aller me coucher aller à 21h, parce que j'ai une vie sociale assez incroyable et bluffante en ce moment. Mais tu vois, j'ai des coups de barre et j'attends tout le temps jusqu'à 22h, parce que je me dis, si je me couche trop tôt, je vais forcément être réveillée plus tôt, avoir une insomnie, etc. Et tu vois, décaler mon sommeil.
Donc, il faut se coucher entre 22h et 23h.
Incroyable.
C'est ce que tu fais déjà et c'est ce qu'il faut continuer de faire. Selon les scientifiques, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Chaque personne est différente, chaque rythme de vie aussi. Mais voilà, selon la science, eh bien, on devrait se coucher entre 22h et 23h.
Moi, je suis curieuse de savoir à quelle heure nos auditeurs se couchent,
pareil,
pour le coup. Hein. Votre heure de coucher, n'hésitez pas à nous indiquer tout ça par WhatsApp au 079 918 3000, d'autant plus qu'on sait, on s'adresse aux lève-tôt aujourd'hui. Hein.
Voilà, c'est ça.
Le meilleur de Lac en replay
sur la nouvelle application Radio Lac.
Drops are falling.
done to me. Honey, it's so hard to say, but I still love you.
Il suffit de demander vos conseils sur Radio Lac.
Bonjour Christine Denis.
Bonjour Sophie.
Vous êtes notre naturopathe et vous allez, vous nous parlez pendant encore plusieurs semaines, puisqu'on fait vraiment une grande série sur la détox.
Sur la détox. Alors le deuxième gros organe de détoxification, c'est l'intestin.
Ah.
Alors là, la priorité, c'est favoriser le transit, je dis bien tous les jours, ça, c'est ce que je pose toujours en consultation, combattre la constipation et équilibrer la microbiote, donc la flore intestinale. Donc il faut être très vigilant par rapport si on a des selles irrégulières ou grasses, donc flottantes.
Oui.
Fermentation, putréfaction, donc des odeurs fortes,
oui.
Des ballonnements et des spasmes. Donc la clé, c'est vraiment d'apporter des fibres, ces fameuses fibres prébiotiques spécifiques que j'intègre dans le plan nutritionnel,
oui.
L'hydratation, l'activité physique et une bonne musculature abdominale,
mm-hmm.
Et puis de la phytothérapie, voilà. Et donc l'autre grand organe, c'est les reins. Qu'on va soutenir. Alors, ils éliminent principalement des déchets, ce qu'on appelle azotés, issus des protéines. Hein. Donc, c'est l'urée, acide urique, oxalique, créatine.
Mm-hmm.
Et des médicaments, hein, donc aussi des toxiques, des polluants, qui sont donc solubles dans l'eau, comme je l'expliquais la dernière fois. Ben, au-dessus de 50 ans, ben, les reins, ils ont tendance à s'atrophier.
Et, oui.
Et ils perdent leur capacité d'élimination. Donc, surtout, s'il y a une prise de médicaments, c'est un diabète ou une hypertension. Donc, là, on va vraiment soutenir les reins, parce qu'il va y avoir un accroissement des déchets d'acide. Et puis, s'il y a une rétention hydrique, des œdèmes, des doigts gonflés, jambes gonflées, des cernes, les yeux gonflés, eh bien là, on va utiliser des méthodes de drainage donc pour augmenter le débit donc, de la filtration rénale, l'évacuation des déchets hydrosolubles. C'est là où la phytothérapie va jouer un grand rôle.
Oui.
Donc, on va choisir des plantes en fonction très individualisée, hein, les plantes. Hein, donc, ça peut être solidago, ortie, bouleau. Et puis, on va aussi utiliser, par exemple, des cataplasmes d'argile, des massages doux, oui. des bains chauds avec des sels de magnésium, et puis bonne alimentation alcalinisante. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment. Et puis, les autres, quand on regarde, c'est les poumons. Alors, les poumons, bah, ils éliminent bien sûr le gaz carbonique, mais aussi des déchets comme l'alcool, des acides volatiles, des solvants. Et donc, ça, c'est là où on va vraiment être vigilant s'il y a des mucosités. S'il y a des sinusites chroniques, des rhumes chroniques, des mucosités, des sécrétions encombrantes, bronchiques, là, on va vraiment aider avec des plantes expectorantes, fluidifiantes, mucofluidifiantes, l'activité physique en plein air, des exercices de respiration, yoga. Voilà. Alors, le dernier organe, grand organe de élimination, c'est la peau.
Ah.
Elle ne va pas l'oublier. Donc, elle va éliminer des métaux lourds et les microplastiques. On est entouré de microplastiques.
On en a plein même dans le cerveau. Non,
voilà,
on en a retrouvé.
Des sels minéraux, donc des cristaux, donc par la transpiration. Donc là, on va favoriser un drainage cutané. Donc, il va y avoir activation des glandes sudoripares. Mais avec l'âge aussi, ces glandes, elles ont tendance aussi à baisser leur capacité. La peau devient plus sèche, est moins vascularisée. Donc, la peau mal drainée avec des odeurs acides désagréables. C'est là où on va aider avec des méthodes de transpiration, des bains, certains massages.
Oui.
Et consommation de bonnes huiles, des acides gras essentiels pour augmenter la qualité et flexibilité des membranes cellulaires pour l'élimination.
On est complète, presque, puisqu'il y aura deux autres chroniques concernant la détox à venir, bien sûr, le mardi à cette heure-ci, dont il suffit de demander sur Radio Lac.
Le meilleur de Lac, en replay
sur radiolac.ch.
As a decoration, I wonder where has présente.
Place au flashback, ce rendez-vous un petit peu nostalgie, notre Madeleine de Proust chaque matin dans le meilleur des réveils. Et là, tu nous ramènes quelques décennies en arrière pour nous parler d'un accessoire de mode féminin.
Oui, exactement. Un simple accessoire qui, en quelques mailles ajourées, divise, fascine et même intrigue. Un petit peu d'histoire, je vous parle du barésie. Aujourd'hui, les barésies, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le barésie, ça date pas d'hier, à ton avis. Ça date de quand, les barésies?
Je dirais, années 60, 70 peut-être ?
Eh bien non, bien plus vieux que ça. Okay. En fait, il faudrait les retrouver dès les années 1920 sur les danseuses de cabaret.
Déjà,
à l'époque, qui incarnaient forcément la sensualité, une sensualité assumée. Mais c'est surtout dans les années 50 et 60 qu'ils explosent avec le burlesque et Hollywood de l'autre côté, avant d'être adoptés par les punks dans les années 70.
C'est vrai.
Et les icônes pop des années 90. Et c'est là tout le paradoxe au final du barésie, parce que au final il oscille entre chic et choc. Il peut être l'apanage des pin-up comme celui des rebelles, et il est porté avec des escarpins, une jupe crayon assez classe, et il devient aussi un symbole d'élégance rétro, et puis avec un short déchiré de l'autre côté, des bottes, et là forcément il crie l'anticonformisme, vous en doutez. Mais alors pourquoi ces barésies suscitent encore des débats? Et bien parce qu'ils bousculent les codes, tout simplement. Ils interpellent, ces barésies. Toi par exemple, ça te fait penser
j'ai
à quoi?
Mis de barésie.
Chic ou choc? Mais sur une femme.
Je dirais plutôt choc que chic, mais ça dépend. En tous les cas, là où tu dis les choses très justes, c'est que ce barésie, on le retrouve dans différents univers.
Exactement.
Qui sont parfois un petit peu aux extrêmes.
Ils sont chargés d'images, ces barésies, de préjugés également, et pourtant aujourd'hui, ils sont démocratisés. Ils se déclinent aussi en couleurs, les barésies, en motifs, et ils s'invitent même sur les podiums haute couture. Lors de la Fashion Week, on a pu les rencontrer encore même cette année. Enfin bref, finalement, le barésie, c'est bien plus qu'un accessoire. C'est une grosse déclaration, peut-être de chic ou même de choc. Mais quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est un bel accessoire qui remonte, on vous le rappelle, aux années 1920.
Donc
c'est
bien plus d'un siècle.
Bien sûr, incroyable. C'est incroyable.
Alors chic ou choc, le barésie, dites-le nous sur WhatsApp 079 918 3000.
Toute la nuit,
réécoutez vos émissions préférées sur Radio Lac.
suffit de demander.
Il suffit de demander.
C'est le moment vétérinaire avec Marc-Antoine Bossard. Bonjour.
Bonjour Sophie.
Centre vétérinaire des sources à Genève. Alors on continue notre série, on a fait des chiens tendance, on a fait des gros chiens. Là depuis la semaine dernière on attaque les petits modèles. Mmh. Et on s'intéresse à un chien très tendance, le bulldog français. Il y a aussi le Boston Terrier qui commence à devenir tendance, mais on va s'intéresser plutôt au bulldog là.
Voilà, un chien brachycéphale comme on dit, avec une tête ronde, un nez raccourci. Un animal toujours joyeux qui fait pas mal à sa tête, qui est assez difficile à éduquer. Enfin, je veux dire, ouais, il a toujours quelque chose de plus important à faire que l'ordre qu'on vient de lui donner.
Que d'écouter, quoi. Voilà.
Et puis, c'est un peu un clown. Il a un côté artiste.
Oui.
Il aime bien faire des petites spéciales dans son caractère. Moi, je l'apprécie beaucoup. C'est un chien qu'on aime ou des fois qu'on déteste dû à son physique. Mais moi j'aime bien son comportement, son caractère, oui.
Alors, est-ce qu'il a des points faibles, notamment sur le comportement ou sur la santé? On sait qu'il y a des problèmes à cause du nez,
oui,
hein,
le bulldog français. Principalement, de ce fait, malheureusement, l'espérance de vie n'est pas très très longue du fait de ces problématiques qui sont respiratoires et qui engendrent plein d'autres de problématiques de la respiration. Il y a des problèmes aussi digestifs parce qu'ils font beaucoup d'aérophagie. Voilà, il y a aussi parfois des problèmes héréditaires au niveau des pattes arrière et des rotules. La colonne vertébrale est aussi un point faible. Mais bon, je veux dire, il y a aussi beaucoup de bonnes raisons d'acquérir un bulldog français. Je veux dire, assez, toujours joyeux et toujours dynamique. Donc ça, moi, je trouve que c'est un compagnon vraiment agréable.
Oui. Il est idéal pour la famille ?
Idéal pour la famille, exactement. C'est un membre à part entière d'une famille qui a, encore une fois, son caractère et qui ne passe pas inaperçu, ça c'est clair.
Merci beaucoup Marc-Antoine, on va vous retrouver la semaine prochaine. Sinon, vous nous retrouvez en podcast sur radiolac.ch. Il y a d'ailleurs tous les podcasts de la chronique vétérinaire que vous retrouvez sur ma page, il suffit de demander. À tout bientôt Marc-Antoine, merci.
Le meilleur de Lac, en replay
sur la nouvelle application Radiolac.